Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangou. Le thème du forum d'aujourd'hui est le respect du droit à l'image sur les réseaux sociaux. L'on assiste de plus en plus à de nouveaux comportements sur les réseaux sociaux et qui consistent à publier des photos ou vidéos de tierces personnes dans des situations peu enviables qui porte souvent atteinte à la dignité humaine. Cela touche également à un domaine, notamment le droit à l'image. Qu'est-ce que le droit à l'image? Qu'est-ce qui explique la violation du droit à l'image sur les réseaux sociaux au Niger? Ces actes peuvent-ils être considérés comme des infractions de l'ordre de cybercriminalité? Si oui, que prévoient les tests en vigueur à propos? Comment y remédier? Pour répondre à ces questions, nous avons invité Dr Kabir Sani, juriste et aussi l'actuel président du Conseil supérieur de la communication, Monsieur Alouyaye, sociologue, Maître Souleymane Seydou, avocat à la Cour. Je suis Fatih Zakari à la présentation de cette émission. Bienvenue à toutes et à tous dans ce forum sur le respect du droit à l'image sur les réseaux sociaux. Pour comprendre le droit à l'image, suivant les explications du juriste Dr Kabir Sani et aussi l'actuel président du Conseil supérieur de la communication.
Le droit à l'image, de manière générique, hein, c'est toute atteinte qui comporte sur un individu dans son honneur, sa dignité et son image. D'avoir diffusé l'image de quelqu'un peut lui porter un préjudice ou porter atteinte à sa dignité humaine, ou alors tout attribut de sa personnalité, le nom, le prénom, l'image, ou porter atteinte à sa dignité, à son honneur. Donc c'est un peu toutes ces atteintes qui constituent ce qu'on appelle globalement le droit à l'image.
Maître Souleymane Seydou, avocat à la Cour, est-ce que vous avez quelques compléments d'information par rapport à la signification du droit à l'image?
Ok, merci. J'ai suivi avec intérêt l'explication qui a été donnée par Dr Sani Kabir, une explication assez édifiante sur la problématique du droit à l'image. Je pense qu'il a eu à dire l'essentiel. Ce que je voulais ajouter, c'est que le droit à l'image, fondamentalement, est un droit constitutionnel qui est reconnu à tous les citoyens nigériens par la loi fondamentale de la République du Niger, notamment la Constitution, en son titre 2, relatif aux droits et devoirs des citoyens. Et plus spécifiquement, les articles 11 et suivants de la Constitution qui traitent justement de cette question. Le droit à l'image, c'est un droit qui fait partie de ce qu'on appelle les attributs de la personnalité humaine. C'est un droit en vertu duquel tout être humain peut s'opposer à ce que son image puisse être publiée sans que son autorisation, sans que son consentement n'ait été obtenu de manière explicite. Voilà succinctement ce que je voulais ajouter par rapport au propos du docteur.
Monsieur Alouyaye, vous êtes sociologue. Qu'est-ce que vous avez retenu des explications du juriste docteur Kabir Sani par rapport au droit à l'image?
J'ai vraiment écouté les deux intervenants et je pense que ils ont dit de tout par rapport à ce droit à l'image. Et il y a un aspect qui m'a beaucoup intéressé ou sur lequel qui a attiré mon attention beaucoup plus, c'est en fait la propriété, la possibilité ou le pouvoir que l'individu a sur son image. Là, c'est extrêmement fondamental et c'est ce que les gens devront comprendre, que tout ce temps que nous sommes, nous avons ce pouvoir sur nos images. Nous avons, la loi nous confère le droit de pouvoir protéger notre image où qu'elle se trouve, où ou qu'elle doit être utilisée par X ou bien par Y. Donc, cet élément-là doit, je pense, interpeller les uns et les autres afin que nous puissions comprendre que les images que nous utilisons sont la propriété de quelqu'un. Tout comme de la même manière que tu ne peux pas venir aujourd'hui t'approprier le véhicule de quelqu'un ou le bien de quelqu'un et partir utiliser à son insu, c'est ce qu'on appelle du vol. Et bien sûr, de la même manière, tu ne peux pas prendre l'image de quelqu'un, l'utiliser, même si c'est à des buts nobles, comme on le dit. Mais tant qu'il n'est pas d'accord, vous n'êtes pas à mesure de pouvoir utiliser son image. Donc là, franchement, c'est ce qui m'a beaucoup réconforté dans l'explication ou dans l'explication du terme. En fait, du thème d'aujourd'hui.
Force est de constater qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, les images sont souvent utilisées sans discernement. On peut facilement trouver la publication des images ou vidéos montrant, par exemple, un accident de la route, des soldats tués ou même certaines parties intimes. Que dire à ce sujet, Maître Souleymane Seydou, vous êtes avocat à la Cour.
Merci pour cette question extrêmement pertinente. Ce qu'il faut relever en ce qui concerne les aspects que vous venez tout à l'heure d'aborder, c'est qu'aujourd'hui, vu le développement de la technologie, notamment l'avènement des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, WhatsApp et autres, notre État n'est pas resté en marge de l'évolution de la technologie. Et donc l'État du Niger a en tout cas pris les devants pour pouvoir réglementer toutes ces questions à travers une loi qui a été adoptée récemment en 2019, intitulée Loi 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger. Alors, la cybercriminalité s'agit en réalité des infractions qui sont commises à travers les moyens de communication électronique, soit par exemple Facebook ou WhatsApp. Lorsque aujourd'hui vous vous mettez par exemple à publier des photos, des images des personnes sans que vous n'ayez obtenu leur autorisation, comme on l'a expliqué tantôt, vous violez déjà le droit à l'image de cette personne-là. Mais lorsque ces images sont de nature à porter atteinte à l'ordre public, lorsque ces images sont de nature à porter atteinte à la dignité de la personne, au-delà du droit de la personne que vous violez, vous commettez une infraction à la loi pénale. Vous commettez une infraction vis-à-vis du texte sur la cybercriminalité qui réprime sévèrement ces gens d'attitude, ces gens de comportement. D'autant plus qu'aujourd'hui, lorsque vous vous mettez à publier les images, par exemple, d'un soldat sur les réseaux sociaux, lui, il est décédé, mais ses ayants droit ont la possibilité de pouvoir agir à son nom et vous poursuivre, tout simplement parce que vous n'avez pas eu l'autorisation des ayants droit avant de pouvoir publier ces images-là. Et donc, il s'agit d'un certain nombre de frais qui sont sévèrement réprimés par la loi sur la cybercriminalité. Ça peut être la diffusion de données de nature à troubler l'ordre public ou tout simplement des informations qui sont de nature à porter atteinte à la dignité de la personne, notamment par exemple la publication de la nudité d'un certain nombre de personnes sur les réseaux sociaux ou des photos qui sont prises dans des situations compromettantes que vous vous mettez à exposer un peu sur les réseaux sociaux.
Alou Aye, vous êtes sociologue, qu'est-ce que vous en dites?
La lecture que je peux faire de ce phénomène, c'est en vérité de comprendre au fond les nouvelles technologies ont apporté ce qu'on appelle la déprivation des mœurs, malheureusement, dans nos sociétés. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est devenu à la limite un professionnel, un journaliste. Tout le monde peut se lever un bon matin et diffuser quelque chose. Donc, il n'y avait pas, ou il n'y a pas jusqu'à présent, un contrôle véritable par rapport à cet aspect-là. La communication, l'information, c'est un métier, c'est une profession. Ce n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir se lever un bon matin pour se dire journaliste, aussi pour se dire communicateur, au point de pouvoir diffuser des informations. Au-delà de l'image, nous vous avons dit, il y a ce qu'on appelle les fake news qui se passe chaque jour que Dieu fait et qui pullule les réseaux sociaux, malheureusement, de nos jours. Donc, il faudrait quelque part que nous puissions comprendre que l'État, à travers les instances de régulation, puisse comprendre comment amener ces réseaux sociaux-là à être véritablement toileté par rapport à ce genre d'images, par rapport à ce genre d'informations qui passent. Parce que le problème, c'est quoi? Tout le monde peut les utiliser aujourd'hui. le citoyen lambda, aussi ignorant soit-il, des règles élémentaires en termes de la déontologie du journalisme, est aujourd'hui appelé à devenir un journaliste. Il va donner une information, il va la diffuser et les gens vont se la partager, malheureusement. Donc, il faudrait, je ne sais pas par quel mécanisme, il faudrait véritablement créer les conditions pour que ce genre de choses ne puissent pas se reproduire. Parce qu'il faut forcément limiter. On ne peut pas prendre l'image de quelqu'un, la diffuser à son insu et surtout porter atteinte à la personne. C'est du vol et impur que ça dans notre éducation, dans notre société, dans la conception sociétale, à faire atteinte à l'image, surtout en ce qui concerne les images indécentes, détruites et carrément immorales. C'est insensé. Et aujourd'hui, comment est-ce que ces gens-là, qui ont reçu cette éducation, qui dans la vie pratique, ne sont pas en mesure de porter atteinte à la dignité de quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, même un fou, par exemple, même un fou, il est difficile de voir un fou en train de circuler tout nu. Si ça lui arrive, vous allez voir, c'est un autre citoyen qui va lui proposer une tenue parce que c'est de la peur, parce qu'on ne doit pas exposer tout. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Il y a du n'importe quoi et c'est des images d'autrui. On ne prend même pas le temps ou la peine de cacher les visages pour que ça ne soit pas flagrant, mais on le montre entier. Et donc, c'est pourquoi je disais, il faut forcément qu'il y ait un mécanisme pour pouvoir juguler cet aspect-là. Les citoyens n'est pas conscient qu'en vérité, le fait de pouvoir avoir un smartphone, de pouvoir avoir un réseau qu'on appelle WhatsApp ou Facebook, ne vous autorise pas à aller au-delà de ce que vous n'êtes pas, qui ne vous est pas permis dans la vie pratique. Eh bien, nous sommes dans une situation dangereuse. Et malheureusement, c'est le cas.
Oui, monsieur Alou, donc comment expliquer ce genre de comportement?
En fait, l'explication réside beaucoup plus sur l'ignorance que nous avons. L'ignorance que nous avons de l'acte que nous sommes en train de poser. Les gens sont, vous savez, nous sommes dans une société où on privilégie beaucoup plus l'oralité. Nous sommes dans une société à oralité. Nous sommes dans une société où les rumeurs ont, malheureusement, ont une certaine priorité sur les autres. Tous ceux qu'on cherche, les gens aiment les sensationnels. Ils sont pressés lorsqu'ils ont une information de la diffuser, lorsqu'ils ont une information de la partager. Sans pour autant mesurer l'impact. Vous allez voir, les gens, des fois, c'est des proches parents, après un décès, qui vont filmer le corps du cadavre et puis ventiler. Sans pour autant se dire que lorsque je partage, il y a tous les risques. Pour qu'au-delà de mon frère à qui j'ai envoyé, que les autres puissent en avoir. Que la communauté puisse en avoir. Vous allez voir, c'est des fois, c'est des femmes, c'est des sœurs qui vont se filmer entre elles ou des amis et ils vont diffuser dans les réseaux sociaux. Donc, c'est pourquoi je dis, fondamentalement, c'est parce qu'il n'y a pas cette culture de déontologie auprès de la population. Et on ne peut pas avoir cette culture de déontologie parce que tout le monde n'est pas susceptible d'être journaliste. Malheureusement, on nous a amené l'outil du journaliste à notre portée alors qu'on ne nous a pas préparé psychologiquement afin que nous soyons des véritables journalistes, j'allais dire, à défaut des véritables utilisateurs, à bon escient. Et c'est ça le gros problème. On utilise un outil sur lequel nous n'avons pas de compréhension, nous n'avons pas une appréhension, nous n'avons pas un jugement qui puisse nous permettre de pouvoir faire le pour et le contre des actes que nous aurons apportés. Donc, nous sommes des consommateurs à qui on a donné et nous sommes en train de n'abuser sans pour autant savoir qu'il y a des règles par rapport à cet aspect-là. Donc, maintenant, par rapport à ces règles-là, c'est les professionnels du domaine. Et en particulier, j'ai beaucoup aimé que vous ayez invité le président du CSC. C'est à eux de pouvoir sensibiliser les populations, de pouvoir informer la communauté afin que nous puissions avoir un minimum de conscience par rapport aux actes que nous sommes en train de poser. Il est important que nous puissions comprendre les limites et surtout que nous avons en notre main un danger imminent qui peut nous nuire.
Monsieur Alou Yaye, vous êtes sociologue. Est-ce que cela fait partie de notre culture? Comment en est-on arrivé là?
Non, absolument pas. Ça ne fait pas partie de notre culture. Notre culture, c'est la décence. Notre culture, c'est la pudeur. Notre culture, c'est la protection de l'autre. Notre culture, c'est l'envie de protéger le sien. Est-ce qu'on convainc? C'est de valeurs comme ça que notre culture véhicule. Mais malheureusement, au-delà de l'influence du monde occidental, l'outil informatique, L'outil Internet particulièrement est un outil que nous n'avons pas encore appréhendé. Donc il fallait avant qu'on ne passe. C'est vrai, on dit que c'est la course vers les nouvelles technologies, il ne faut pas qu'on soit dernier, mais il faut d'abord préparer le peuple. Il fallait d'abord préparer le peuple pour qu'il puisse comprendre la dangerosité qu'il a créée.
Maître Souleymane Seydou, vous êtes avocat à la Cour. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que le sociologue Alou Yaye vient de dire?
Je pense que le sociologue, c'est son domaine. Il a suffisamment brossé la question et tous les aspects ont été pris en compte. Lorsque vous prenez le contexte nigérien, vous savez que nous sommes un pays suffisamment islamisé, un pays dans lequel il y a un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes qui nous sont enseignés depuis la base, depuis la cellule familiale, dans les écoles coraniques et autres. Et aujourd'hui, on a du mal à comprendre cette transformation aussi rapide de notre société, à tel point qu'on puisse retrouver en tout cas un certain nombre de comportements sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, lorsque vous prenez le contexte nigérien, comme il a eu à le rappeler, le nigérien, c'est la solidarité, c'est l'entraide, c'est la protection de l'autre. Mais malheureusement, aujourd'hui, lorsque vous constatez que dans le cadre d'une même cellule familiale, par exemple, à travers un certain nombre de règlements de compte, l'un des membres de la famille peut se retrouver, par exemple, à utiliser l'image de l'autre, à le publier sur les réseaux sociaux pour pouvoir nuire à cette personne-là. Vous comprenez qu'aujourd'hui, fondamentalement, il y a un problème également d'éducation qui se pose. Un problème d'éducation, un problème de formation, comme il a eu à le dire, parce que nous avons du mal à comprendre que dans le contexte nigérien, qu'on puisse en arriver là. Il a donné un certain nombre d'exemples dans le cadre du mois de Ramadan. On peut aller même au-delà de ça. Nous avons eu à gérer plusieurs situations au niveau du tribunal, ou des camarades entre filles, okay, se mettre à s'envoyer des photos et quelques années après, vous voyez, ces deux sont peut-être en conflit et les mêmes images qu'ils s'envoyaient au moment où ils étaient amis, ces images-là se retrouvent sur les réseaux sociaux. Ou c'est des jeunes filles qui envoient les images à leurs copains et la relation prend fin. Le compère, dans la perspective de se venger, se met à publier les images sur les réseaux sociaux. On a connu beaucoup de cas comme ça au tribunal. Il faudrait qu'on arrive à responsabiliser les uns et les autres. Que dans le cas de la cellule familiale, que les parents prennent leurs responsabilités quant à l'éducation de manière effective de leurs enfants. Et également, la société doit également bannir ces gens de comportement. Parce qu'aujourd'hui, le plus gros des soucis en tant que tel, ce n'est pas la diffusion de l'image. Si une personne diffuse l'image et que les autres ne partagent pas l'image, vous allez voir que la personne qui a eu à diffuser, la personne va revenir à des meilleurs sentiments. Mais lorsque vous voyez l'image est diffusée, ce sont les autres citoyens eux-mêmes qui se mettent à partager, de telle sorte que l'effet escompté arrive à se produire. Et donc, il faudrait qu'il y ait une éducation à l'utilisation de ces outils-là qui sont arriver dans un contexte d'impréparation de notre pays.
On a compris à travers la définition du droit à l'image que toute personne a sur son image et l'utilisation qui en est faite un droit inclusif et peut s'opposer à sa diffusion sans son autorisation. En principe, l'utilisation de l'image d'une personne nécessite son autorisation sans laquelle il est interdit de l'utiliser. Au sujet des violations du droit à l'image et ses conséquences sur les réseaux sociaux, je propose de suivre les explications du juriste Dr Kabir Sani, par ailleurs président du Conseil supérieur de la communication.
C'est là le grand problème. Toutes les atteintes au droit à l'image proviennent des amateurs. À l'époque, c'était les blogs. Maintenant, il y a moins de blogueurs. Mais à l'époque, il y a eu beaucoup d'atteintes au droit à l'image commises par des amateurs. Enfin, c'était des amateurs. Des gens qui ne connaissent rien au droit à l'image, qui vont écrire un article par les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut relayer malgré soi une vraie fausse information, une vraie fausse diffamation, excusez-moi l'expression, où on est peu soucieux de la vie privée de l'autre. Si il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui diffusent des images intimes de leur compagne ou de leur compagnon ou de leur copine ou de leur femme, de leur ami. Ouais, ça, elle porte atteinte à la vie privée et souvent même à ce qu'on appelle l'intimité de la vie privée. Parce qu'au-delà de la vie privée, il y a l'intimité de la vie privée. Les questions sanitaires, la question sanitaire d'un individu, un handicap d'une personne, ou ses connaissances très proches comme ses enfants, ses amis proches, les domestiques d'un foyer, d'un homme public, ça, c'est l'intimité de la vie privée, au-delà de la vie privée globale. On voit tous ces aspects-là. Normalement, je dis, c'est réglé par les lois qui régissent les réseaux sociaux à travers, par exemple, la loi sur la cybercriminalité. Bon, ça, c'est le juge des affaires civiles, donc le juge des affaires civiles, qui peut appliquer ces dispositions. Parce que je rappelle aux gens qu'au Niger, la loi sur la cybercriminalité a été adoptée récemment. Donc, elle est en vigueur. Donc là, si c'est 2 mois à vous, je diffuse votre photo sans votre accord, où je vous diffame sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la loi sur la presse. Moi, si vous êtes journaliste, mais d'un compte privé à un compte privé, c'est vraiment une affaire purement privée. Mais là, c'est le juge des affaires civiles qui est compétent pour régler ce genre de choses. Et en même temps, c'est assorti de sanctions pécuniaires et même privatives de pénales, quoi.
Maître Souleymane Seydou, avocat à la Cour, est-ce que la loi sur la cybercriminalité a été claire sur ce sujet?
Oui, je dirais que s'agit d'une loi assez exhaustive qui a en tout cas pris en charge toutes les questions relativement à la problématique. Lorsque vous prenez le texte de loi, il y a une multitude de dispositions qui traitent de ces questions. Il y a d'abord la question de l'usurpation d'identité numérique qui est prise en charge par le texte sur la cybercriminalité, le fait d'utiliser la photo d'une personne sans pour autant obtenir son consentement, c'est pris en charge, c'est réprimé, c'est sanctionné. Au-delà de ça, vous avez l'infraction qui consiste à porter atteinte à la dignité de l'être humain. Vous avez les infractions relatives aux troubles à l'ordre public, les infractions qui ont trait également à la diffamation, à l'injure, au chantage. Et il y a une panoplie d'infractions qui permettent en tout cas au juge d'avoir des éléments solides pour pouvoir poursuivre les personnes qui se seraient rendues coupables de ces infractions-là. Donc la loi sur la cybercriminalité est un texte qui est assez complet, quand bien même que certains reprochent à ce texte-là d'être un peu attentatoire au droit à la liberté d'expression. On peut quand même reconnaître qu'avec l'avènement de ce texte-là, on peut très rapidement appréhender les auteurs co-auteurs des faits qui sont antisociaux et qui remettent en cause les fondamentaux de notre société.
Monsieur Alou Aye, vous êtes sociologue. Est-ce que les Nigériens sont conscients des méfaits de ce genre d'actes?
Bon, je ne dirais pas que les Nigériens sont conscients à 100%, mais je pense que l'impact, malheureusement, ou l'effet négatif de l'abus que nous sommes en train de faire des médias, eh bien, est en train d'amener certains Nigériens à prendre conscience. Certains Nigériens à comprendre et à se dire qu'il faut réfléchir et essayer de se mettre à la place de l'autre. Au moment où on t'envoie l'image ou le message sur la vie intime de quelqu'un, dis-toi si c'est ta vie, comment tu vas faire? Ça, c'est la première des questions qu'il faudrait que je pense qu'on puisse se poser. Et ça va nous aider à prendre conscience de la dangerosité de la chose. Et ça va nous amener à limiter la propagation. Parce qu'au moment où tu envoies, si tu t'imagines être à la place, ou si c'est ta femme, ou si c'est ta mère, ou si c'est ton père, ou si c'est un parent proche, est-ce que tu vas le partager avec plaisir? Tu ne vas pas le faire. Eh bien, de la même manière, il ne faut pas dire comme ce n'est pas moi qui l'ai confectionné, comme ce n'est pas moi qui étais le premier à la base. Parce que le problème, c'est ça, c'est quoi? C'est que les Nigériens ne se sentent pas coupables au moment où il partage, parce que ce n'est pas lui qui a confectionné ou qui a concocté l'information ou qui a créé l'image. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sentiment d'inculpabilité par rapport à l'acte qu'il est en train de poser nous amène malheureusement à partager du n'importe quoi. Mais lorsque quelque part, on essaie de réfléchir et on essaie de se mettre surtout à la place de celui-là qui tu vas envoyer son image, eh bien, je pense que nous allons être beaucoup plus utiles. Parce que notre morale sociétale, notre morale collective nous interdit ce genre de choses. Mais c'est ce lien-là que nous n'arrivons pas à faire entre ce monde concret, ce monde réel, dans lequel nous avons des interdits. Donc, je suis convaincu, je le dis bien, que dans le monde réel, la majorité des Nigériens ne va pas diffuser, ne va pas poser des actes attentatoires par rapport à la pudeur de son prochain. Mais le monde virtuel, c'est là où le problème se pose, parce qu'on n'a pas cette culpabilité. On n'a pas ce remords
Parce que non, je n'ai pas crié, on m'a partagé. Ils allaient voir des gens, vous envoyer si vous les demandez où est-ce qu'il y a la source. Non, j'ai le récit. Comme ça, là, on m'a partagé, moi aussi j'ai partagé. Donc, vous sentez que c'est innocemment, ils font ça. Ou parfois, même si c'est en filigrane, il y a une certaine méchanceté de vouloir nuire à quelqu'un. Mais tant que ce n'est pas vous directement qui avez créé l'image, vous vous sentez dédouané. Or, c'est cet aspect-là que nous allons, que nous devrons amener les Nigériens à comprendre qu'on est tout aussi responsable que celui qui était le premier à diffuser l'image ou à partager l'image. Nous sommes coupables au même titre que lui, ne serait-ce moralement. J'ai dit bien ne serait-ce moralement, parce que l'aspect juridique, je pense que le juge est là pour en parler, mais ne serait-ce moralement, aux yeux de la population ou aux yeux de la société, de la communauté, nous sommes coupables parce que nous aussi, nous avons partagé quelque chose qui est indécent, quelque chose qui est anormal, quelque chose qui est socialement condamnable.
Nous avons recueilli aussi les avis de quelques citoyens sur les publications d'images ou de vidéos qui portent atteinte à la dignité humaine. Écoutons.
Ce que je pourrais dire ici, c'est que vraiment, aujourd'hui, c'est très difficile de naviguer sur Facebook ou bien sur Internet, de ne pas pouvoir regarder une image malsaine, soit-elle, ou bien ne pas regarder une vidéo malsaine. Et ça, je pourrais dire involontairement, quelqu'un utilise les réseaux sociaux, particulièrement Facebook, pour avoir des informations, et des informations crédibles, des informations utiles. Et aujourd'hui, je vois que c'est très dégueulasse de rentrer, de naviguer sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux, de pouvoir regarder involontairement une vidéo, involontairement une image très malsaine. Il faudrait que les autorités puissent prendre leurs responsabilités en main. Et qu'est-ce que je pourrais dire ici? C'est qu'il faudrait qu'on puisse avoir des sanctions. Tu ne peux pas publier n'importe quoi sur les réseaux sociaux.
Ceux-là qui font ce genre de publications, on peut dire qu'ils ne savent pas ce que c'est que publier une image choquante. Donc c'est des jeunes, c'est des amateurs qui partent filmer des choses comme ça sans tenir compte quand même de... Ils ne prennent pas en compte la dignité quand même de cette personne-là qu'ils ont filmée. Si c'est une personne ou bien si c'est... Quelle qu'en soit la chose, si c'est vraiment des choses qui ne sont pas bonnes à regarder. Moi, je pense que notre conscience, la conscience humaine quand même ne peut pas nous permettre quand même de diffuser ce genre ou de publier ce genre de photos.
Moi, je pense que peut-être il n'y a pas de loi qui sanctionne la publication des images ou vidéos qu'on voit sur Facebook ou WhatsApp. Ou bien même s'il y a les lois, les gens ne le connaissent pas. C'est ce qui amène ce phénomène peut-être.
Maître Souleymane Seydou, avocat à la Cour, quelles sont vos réactions ou commentaires à propos de ce que disent ces citoyens?
Je pense que nous avons tous le même point de vue par rapport à la thématique. C'est d'abord l'ignominie de l'acte, le caractère blâmable de cela. Et je voulais ajouter également qu'au-delà de ce que certains auditeurs ont eu à dire, c'est qu'il s'agit des faits qui sont sanctionnés, qui sont punis par la loi. Et pour revenir par rapport à ce que disait le sociologue, c'est vrai, il s'agit des faits qui sont moralement sanctionnés lorsque vous partagez, lorsque vous n'êtes pas l'auteur de la publication, mais cette question est également traitée par la loi sur la cybercriminalité. Aujourd'hui, même si vous n'êtes pas l'auteur de la publication de l'image, si vous n'êtes pas l'auteur de l'audio, si vous n'êtes pas l'auteur de la vidéo, le simple fait pour vous en tant que citoyen de partager l'information, de partager l'image, de partager la vidéo, vous êtes sanctionné par la loi sur la cybercriminalité au même titre que celui qui a eu à créer. Donc, on ne fait pas de distinction entre celui qui a publié en premier la photo ou l'image, la vidéo, avec celui qui a partagé. Vous pouvez être dans votre salon, recevoir une image attentatoire à la vie privée, à la dignité de l'être humain. Si vous vous mettez à partager par un simple clic, vous serez puni de la même manière que celui qui, à l'origine, a créé la vidéo dans la perspective de nuit. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent lorsque vous utilisez ces réseaux sociaux. Si vous voyez des images, des vidéos qui sont attentatoires à la dignité humaine, il faut vous abstenir de les publier parce que si vous les publiez, vous êtes en tout cas pris en charge par la loi sur la cybercriminalité. Et banalement, vous allez vous retrouver peut-être dans la même cellule avec celui qui a créé la vidéo. Merci.
Monsieur Alou Aye, sociologue.
Oui, madame. Ce que j'aurais à ajouter par rapport à ce que Juris a dit, je pense que, comme nous le disons d'habitude, la meilleure pédagogie doit être celle de l'exemple. Donc, je ne sais pas si quelle est la possibilité qu'ils ont de pouvoir, puisque sûrement qu'ils ont déjà, par rapport à cette loi de cybercriminalité, ils ont déjà pu à sanctionner des citoyens qui ont abusé ou qui ont porté atteinte dans les réseaux sociaux à la vie ou à l'image d'autrui. Il serait important que les Nigériens puissent le comprendre. Et ça va permettre aux Nigériens de véritablement prendre conscience et d'éviter, de s'abstenir au maximum de partager du n'importe quoi. Je vais dire du n'importe quoi parce que nous sommes en train de voir du n'importe quoi dans les réseaux sociaux, malheureusement. Donc, je ne sais pas, maître, quelle est la possibilité que vous avez de pouvoir montrer, ne serait-ce quelques séquences, où des prisonniers, des gens qui ont été pris en flagrant délit et qui ont été condamnés, les montrer et expliquer à la population à travers nos chaînes nationales ou bien les chaînes privées, afin que les citoyens puissent comprendre que nous sommes en danger. Que si nous partageons quelque chose sur lequel nous n'avons absolument aucune information, on peut se retrouver à la place de celui-là qu'on a montré à la télé. Et je pense que véritablement, ce sera beaucoup plus pédagogique et ça peut aider les structures étatiques qui sont chargées de veiller à sensibiliser et à conscientiser la population parce que, comme je le disais tout de suite, la meilleure pédagogie, c'est celle de l'exemple.
Maître Souleymane Seydou, avocat à la Cour, comment et où porter plainte en cas de violation du droit à l'image?
Ok, merci pour cette question brillante. Avant de répondre à cette question, j'aimerais rebondir un peu par rapport à ce que le docteur vient de dire tout à l'heure. C'est vrai, la meilleure des pédagogies, c'est celle de l'exemple, mais aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas, en voulant donner l'exemple, violer encore la loi, parce que lorsqu'on expose les auteurs de ces faits encore sur les réseaux sociaux, alors que les débats portent justement sur le droit à l'image, même si vous vous rendez coupable d'une infraction, vous bénéficiez de la même protection que les autres qui n'ont pas commis l'infraction. Et donc, on ne peut pas, parce que vous avez été condamné, on ne peut pas publier vos images ou les séquences sur les réseaux sociaux ou à la télé. C'est également une atteinte également à leurs propres droits. Mais ce que la loi a prévu comme parade, c'est de rendre les audiences publiques. C'est de rendre les audiences publiques. Aujourd'hui, lorsque une personne est responsable d'un tel fait, lorsqu'il y a une procédure qui est diligentée contre la personne, le jour où il y aura le jugement, la loi permet à tous les Nigériens de venir dans la salle d'audience, d'assister, de voir ce qui se passe et également d'écouter la sanction qui sera prononcée à la compte de la personne. Voilà ce que je voulais dire par rapport à l'intervention du docteur. Pour revenir à votre question, alors c'est simple, la procédure est simple. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des unités d'enquête qui sont là. Il y a des personnes qui sont habilitées à recevoir les plaintes. Vous avez classiquement le procureur. Si vous estimez qu'il y a eu atteinte à votre droit à l'image et que cela porte atteinte à votre dignité, si cela constitue une infraction, vous pouvez saisir directement le procureur de la République par une plainte. La plainte peut être soit écrite ou verbalement, vous vous présentez devant le bureau du procureur, dites au procureur, vous lui exposez les faits ou vous faites la plainte. Si vous n'avez pas accès au procureur, parce qu'aujourd'hui, les Nigériens ne sont pas suffisamment instruits, vous pouvez aller directement, et c'est ce qui est plus facile, dans les commissariats. Vous partez dans un commissariat, l'officier que vous allez trouver ou le commissaire, vous exposez votre situation, il va prendre note et il va diligenter la procédure. Et toutes ces procédures vont atterrir, bien entendu, à la justice. Ça, c'est l'aspect pénal. Lorsque cela constitue une infraction, c'est en ce moment qu'on peut aller chez le procureur ou, par exemple, au niveau du commissariat. Mais on peut également porter atteinte à votre image sans pour autant que cela ne soit une infraction à la loi pénale. Vous pouvez, par exemple, être à votre cérémonie de mariage. Lors de votre mariage, prendre des photos, bien entendu. Le lendemain ou après-demain, vous retrouvez vos photos de mariage, par exemple, sur des posters des sociétés commerciales, un peu dans la ville, en train de faire la publicité d'un produit. Ça, ce n'est pas une infraction, mais il y a atteinte à votre droit à l'image. Ça, c'est l'aspect civil qui prend en charge la question. Vous saisissez la juridiction civile pour demander à la juridiction de constater que votre image a été utilisée à des fins commerciales par telle ou telle personne sans votre autorisation et vous demandez à ce qu'on condamne la société ou la personne à vous payer de l'argent à titre de dommages et intérêts. On a eu beaucoup de cas où des sociétés ont été condamnées à payer 20 millions de francs CFA, par exemple, à un couple où les images de la cérémonie de mariage ont été diffusées sans leur consentement. On a eu des cas des écoles, des instituts qui ont pris la photo de leurs élèves lors de la remise des diplômes pour faire des annonces en thème publicitaire pour l'école. Ils ont été poursuivis pour violation des droits à l'image. Ils ont été condamnés à 5 millions. Le juge apprécie en fonction du dommage que vous avez subi la somme qu'il faille vous attribuer en termes de dommages et intérêts. Merci.
Et quelles sont les conséquences auxquelles donc les auteurs peuvent s'attendre?
Premièrement, si les faits sont constitutifs d'une infraction à la loi pénale, la conséquence, c'est qu'on va faire une procédure contre vous. Vous allez peut-être vous retrouver en garde à vue à la PJ, dans un commissariat, ensuite déférer sur le procureur qui va vous mettre sous mandat de dépôt au niveau de la prison civile de Niamey. Vous allez faire quelques jours ou quelques mois là-bas avant que le juge ne vienne rendre sa décision. Et là également, lorsque vous prenez par exemple la loi sur la cybercriminalité, c'est en fonction de la gravité des faits qu'on vous reproche. La peine ou les sanctions varient de 1 an à 3 ans, de 1 an à 5 ans, en fonction justement de la faute ou de l'infraction que vous avez commise. Donc on apprécie au cas par cas la gravité de l'atteinte que vous avez commis. En fonction de cette gravité, le juge voit la fourchette de la peine qu'il faille appliquer. La deuxième sanction, elle est civile, comme je viens de le dire tout à l'heure. Qu'on vous condamne à payer de l'argent pour une simple image d'une personne. Vous vous retrouvez à payer 15 millions, 20 millions, 30 millions ou 50 millions. Vous voyez ce que ça fait en termes de conséquences.
Monsieur Alou Yaye, quels sont donc les défis et les perspectives auxquels donc il faut songer à court, moyen et long terme au sujet du respect de la dignité humaine sur les réseaux sociaux?
Merci madame. En fait, les défis et les perspectives, je pense que c'est d'abord l'éducation, c'est d'abord la sensibilisation, c'est d'abord la conscientisation de la population. Parce que, comme je l'avais dit, nous avons entre nos mains un outil qui est extrêmement gravissime, mais dont nous ignorons la portée. Et que nous sommes en train d'en abuser, d'utiliser sans pour autant connaître le contour de la chose. Or, pour toute activité, pour toute chose que nous sommes appelés à faire dans ce monde d'ici-bas, il faudrait avoir un minimum de connaissances sur la chose pour mieux l'utiliser. Pour l'utiliser rationnellement, pour l'utiliser judicieusement. Malheureusement, en ce qui concerne les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, les intimes, comme on les appelle, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le citoyen s'était réveillé un beau matin et il les a à sa porte. Il utilise. Sans pour autant qu'il ait au préalable les informations, la formation nécessaire, comment les utiliser. Et ensuite, malheureusement, en dépit du fait qu'il n'avait pas ces informations, on n'a pas cherché à rattraper en faisant une large campagne d'éducation, de conscientisation de la population. Donc c'est ça qui a manqué durant tous ces temps-là. Et je ne pense pas que ce soit les organes étatiques, que ce soit les agences de communication elles-mêmes, qu'il y ait des informations dans le cadre de la bonne utilisation de ces réseaux sociaux-là que nous avons. Ils nous ont proposé, nous sommes en train de consommer, mais nous n'avons malheureusement pas les connaissances nécessaires nous permettant de pouvoir les approprier. Donc, comme disait tout de suite, mais également le docteur, il disait que c'est des amateurs. Mais tout le monde est devenu un amateur en communication aujourd'hui. Tous les utilisateurs sont devenus des amateurs en communication. Or, un amateur en communication ne doit pas exister dans ce monde d'aujourd'hui. Nous devrons tous être au minimum outillés d'un bagage nous permettant de pouvoir nous en servir et s'en servir en bon escient. Et surtout savoir les sentences qui peuvent en découler si nous en abusons. Et surtout, c'est ça, je pense. Donc, savoir quelles sont les sentences que si jamais on abuse de l'image de quelqu'un, si on abuse de la vidéo de quelqu'un, si on abuse de l'audio de quelqu'un, voici ce que la loi nous réserve. Donc, je pense que c'est là le grand défi. Et surtout, c'est ça les perspectives. Renforcer la sensibilisation ou faire la sensibilisation. Parce que je ne pense pas qu'elle y ait là. Au fond, coin de ce pays-là, pour que les gens puissent comprendre les dangers qui qu'il y a autour de l'utilisation des réseaux sociaux.
Maître Souleymane Seydou, avocat à la Cour, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter donc, par rapport donc, aux défis et aux perspectives?
Ce que je voulais, les défis sont énormes, hein, docteur l'a si bien rappelé. Moi, je voulais également ajouter un aspect qui est extrêmement important, c'est que les Nigériens n'ont pas la culture de la juridicité. Aujourd'hui, nous sommes un pays islamisé. Lorsque vous constatez des faits qui sont attentatoires à votre dignité ou à l'ordre public, les gens disent, bon, imnande irkwe, on laisse avec Dieu tout ça. Vous comprenez? Ah, avec ça, le phénomène ne peut pas être jugulé. C'est vrai, nous sommes dans un pays islamisé, mais lorsqu'il y a des faits, des comportements qui sont, en tout cas, contraires à la morale et à la conscience collective, il faudrait que les gens aient cette sagacité de pouvoir également saisir la justice pour que les auteurs puissent être véritablement sanctionnés. La sanction, ce n'est pas seulement d'envoyer la personne en prison. Au-delà de ça, la sanction a un caractère pédagogique, c'est d'amener la personne à se corriger, à se remettre en cause et à ne plus recommencer avec ces gens d'habitude. Donc c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a les avantages qui sont liés à cela, mais les inconvénients sont extrêmement énormes lorsque nous n'en arrivons pas à l'utiliser à bon escient. C'est pour ça, comme le docteur a eu à le dire, il faut l'éducation, la sensibilisation pour que les uns et les autres sachent comment utiliser ces outils que voilà, le monde met à notre disposition.
Nous sommes donc à la fin de ce forum sous le thème « Le respect du droit à l'image sur les réseaux sociaux ». Vous avez suivi l'intervention de nos invités sur les explications du droit à l'image, les causes et les conséquences de la violation du droit à l'image sur les réseaux sociaux, les tests juridiques qui sanctionnent cette violation du droit à l'image ainsi que les défis et les perspectives. Nous étions en compagnie de Maître Souleymane Seydou, avocat à la Cour, Dr Kabir Sani, juriste et actuel président du Conseil supérieur de la communication, et M. Alou Aïe, sociologue. La présentation est assurée par Fatih Zakari. La régie son donc est assurée par Amina Hassan.